Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coupure. Aujourd'hui, nous interviewons Anaïg et Loris, cofondateurs du concept Ephemera, restaurant immersif à Lyon. Accompagnés de Jade, ce trio passionné et passionnant nous parle de leur création de leur restaurant à leur développement à Lyon et en France, en passant par leurs inspirations culinaires et expérimentales, les défis humains qu'ils traversent, ainsi que leurs réflexions sur la dimension éphémère et vivante de leur restaurant. Bonne écoute sur Coupure. Bonjour Anaïg.
Bonjour Loris.
Bonjour.
Bienvenue sur Coupure, bienvenue à Paris. Comment allez-vous aujourd'hui?
Très bien, merci, content d'être là.
Très très bien, ouais.
Le trajet pas trop long, ça allait?
Au top.
Super. Vous êtes notre 7e interview. On est très contents de vous recevoir. Des Lyonnais à Paris, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Je voudrais déjà commencer par une petite présentation. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs?
Bien sûr. Alors, Anaïg Ferrand, j'ai 23 ans. J'ai fait l'Institut Paul Bocuse que j'ai terminé du coup il y a 2 ans. Je suis là aujourd'hui avec du coup Loris.
Donc voilà, je me présente, Loris. J'ai fait donc l'Institut Paul Bocuse aussi, j'ai été diplômé en 2019. Après, je suis allé travailler sur Paris avec un chef 2 étoiles, Sylvestre Waïd. Puis après, on a monté Ephemera avec Anaïg et Jade qui n'est pas là aujourd'hui.
Super. Anaïg, Loris, vous êtes cofondateur du restaurant Ephemera qui est en plein développement à Lyon. On voudrait avoir plus d'informations sur votre concept. On aimerait faire découvrir votre concept auprès de nos auditeurs. Déjà, la première question, c'est quand et comment a été créé Ephemera? De quelle idée vous est venue pour la création de ce restaurant? Et comment votre bébé est né?
Alors, c'est une histoire qui est un petit peu longue. Ça a commencé en 2019. Lorsque plusieurs personnes de la partie art culinaire, du coup la même section que Loris a faite, sont venues nous chercher, Jade et moi, pour les accompagner sur un projet qui de base devait ne durer qu'un week-end. Et l'idée était vraiment de mettre à profit tout ce qu'on avait appris lors de nos années à l'Institut pour en faire profiter nos proches, nos amis, nos familles, etc. En louant un établissement qui était une bibliothèque culinaire sur la place Bellecour à Lyon.
D'accord.
Donc on était une dizaine d'étudiants, c'était en 3e année à l'Institut, donc la dernière de Loris. Et on a fait un restaurant sur 48 heures, sur un concept qui s'appelait Désillusion. Le but étant vraiment du coup de faire une cuisine un petit peu trompe-l'œil. Et ça a beaucoup fonctionné, on a eu la chance d'être pris par en fait le média Bonbon Lyon, qu'on ne connaissait pas encore à ce moment-là, qui a fait un article sur nous. Et on a encore cette image de mon téléphone, parce que c'était mon numéro de téléphone qui avait été donné sur les réseaux sociaux. On a écrit un petit groupe sur Facebook, etc. Et de mon téléphone qui littéralement bug, mais bug du nombre d'appels. On était en cours et je vois mon téléphone qui arrête pas de sonner. Je décroche un appel, j'en ai 4 manqués, je comprends pas. Et à un moment, je demande à des clients, mais est-ce que je peux vous demander d'où est-ce que vous avez entendu parler de nous? Ils nous disent, le Bonbon Lyon. On connaissait pas du tout à l'époque. Et on a vu la puissance de la chose, et du coup forcément on a été complet sur tout le week-end, ça a super bien fonctionné, il y a des clients qui se rendaient au restaurant pour savoir si on n'avait pas de la place, s'ils voulaient absolument faire le restaurant, alors que c'était vraiment quelque chose de basique, alors c'était un bon rapport qui a été pris certes, mais on s'est rendu compte vraiment de la puissance à ce moment-là de l'éphémère et du souhait des Lyonnais d'avoir de la nouveauté.
D'accord.
Avec les plus motivés. Jade, Loris et moi, on a refait la même chose 3 semaines plus tard dans un autre établissement qui s'appelait la Food Factory.
Ouais, c'est quelque chose comme ça. Et c'est un lieu à Croix-Rousse qui est à la base un studio culinaire, un studio photo, on va dire, où elle reçoit aussi des ateliers. Donc c'est vraiment une sorte de, pas de hangar, mais un local qui est vide. Il y a juste un grand plan de travail central.
Okay.
Et c'est pareil, nous ce qu'on aimait bien, c'est qu'on ne voit pas un restaurant de base là-dedans. C'est vraiment un lieu qui déconnecte un peu. Et du coup, on avait fait un show culinaire en profitant de ce grand plan de travail et en mettant les clients face à nous. Et du coup, pareil, ça permettait d'avoir un côté un petit peu sympa et atypique qui change de juste venir au restaurant. Et c'est un peu comme ça qu'est né le concept.
On a fait sur ce deuxième week-end 240 couverts.
D'accord.
Avec que des personnes qu'on connaissait plus, parce que du coup on avait fait un partenariat avec le Bonbon Lion. Et c'est un restaurant qui a été complet en littéralement 24 heures. Sur les 240 couverts. Nous, de base, ça nous paraissait un peu fou, quoi. On se disait, enfin, on sort de nulle part. Juste le nom Institut Paul Bocuse a fait que ça nous a permis d'avoir une multitude de clients avec un menu qu'on vendait à 59€ quand même pour le soir. Donc, on avait accueilli plus de 80 personnes. C'était pour nous, c'était ouf, quoi. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de continuer ça? Parce qu'il y a clairement quelque chose à faire, en fait, autour de l'éphémère. Et on s'entend bien, tous les trois. Donc, continuons. Cherchons une solution pour continuer à travailler ensemble. En parallèle, on était suivi à l'Institut Paul Bocuse par un intervenant qui s'appelle Sébastien Gouget. Je ne sais pas si vous vous en rappelez.
Je ne me rappelle plus, non.
C'était pendant Capstone. Jade est allée sortie pendant une pause avec lui et elle lui a parlé en lui expliquant un peu ce qu'on venait de faire parce que c'était juste après ça. Et il lui a expliqué que lui, il tenait... un incubateur dans le centre de Lyon, Lyon 7e, qui n'était pas vraiment un restaurant, mais qui avait une cuisine toute équipée, etc., et qui pouvait nous le mettre à disposition pendant 6 mois. Et là, on s'est dit, OK, c'est un signe. On venait de parler du fait de lancer un truc tous les trois. On a là une solution de trouver un local sans achat de fonds de commerce, donc pas besoin d'investissement, pas besoin de sous, parce qu'on avait en tout et pour tout peut-être 330€ sur nos comptes respectifs, enfin nous trois, quoi. Donc c'était impossible de penser à acheter quoi que ce soit. Donc on avait pas de financement, on avait que des idées, mais on avait envie de se lancer, quoi, très clairement. Donc on s'est dit, bah OK, Seb, donne-nous l'opportunité, en janvier, on vient chez toi. Et on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on va pouvoir faire la différence? Effectivement, l'éphémère, ça commence à se faire d'un peu de partout, mais qu'est-ce qu'on peut en plus faire en plus pour que ce soit vraiment, vraiment bien? Et là, on a réfléchi du coup, et il y a le projet de l'Institut qui s'appelle Avant-Scène, qui est un projet par lequel on est tous passés, qui vraiment nous oblige à réfléchir à un concept dans son entièreté. Et on s'est dit, c'est vrai que c'est dommage que ce concept, que cette idée ne reste qu'au sein de l'Institut, parce que c'est quelque chose qui fonctionne et qui plairait à beaucoup, beaucoup de gens.
Vrai.
De vraiment réfléchir à un concept avec une ambiance et pas juste une bonne cuisine. Et surtout, le fait d'allier la bonne cuisine avec l'expérience complète. Et c'est de là, du coup, qu'est née Ephemera. C'était de base de créer et imaginer des concepts éphémères et immersifs pour des durées limitées, sachant que chaque concept, du coup, est réfléchi avec une ambiance, une carte boisson, une carte food,
d'accord,
en corrélation pour plonger vraiment les convives dans une expérience culinaire plus que juste un restaurant.
C'est super. Et ce que j'entends, c'est qu'on voit qu'il y a déjà très rapidement des gens qui vous ont suivi, comme le Bonbon, comme des intervenants à l'Institut Paul Bocuse, comme l'école aussi. Et c'est vrai que ça a dû fortement... ça a dû fortement vous aider dans votre développement. Dans ce que vous m'avez dit, j'avais déjà une question, c'est comment vous avez géré l'effervescence de ce moment où voilà, les appels que tu as reçus par téléphone, par dizaines dans le mois ou quoi que ce soit, des gens qui étaient de plus en plus attirés par votre démarche et tout. Comment vous avez vécu cette adrénaline, on va dire, pour chacun de vous deux?
Je te laisse commencer.
Pour revenir un petit peu à l'histoire du truc, on était censé en faire qu'un, et quand on a vu qu'il y avait justement une telle ampleur, c'est là où on s'est dit, on va en faire un autre. Et c'est là où on avait mis un mois ou deux mois pour préparer le premier, et le deuxième, on l'a préparé en seulement 3 semaines. Et en fait, c'est un peu ça, quand on a vu l'engouement que ça a pris très rapidement, on s'est dit, c'est un engouement qui va sûrement ne pas durer. Donc il faut se lancer maintenant, en fait. Et c'est pour ça qu'on a accéléré derrière et qu'on a essayé d'ouvrir au plus vite quelque chose de conséquent et de vraiment abouti, quoi.
Donc vous étiez, vous étiez plutôt excité d'aller de plus en plus loin.
Ça, sûr. Ça nous a vraiment propulsé à nous dire, OK, c'est maintenant ou jamais. Soit parce que quelqu'un d'autre va avoir l'idée et va le faire plus rapidement que nous. Donc si on veut se lancer, il ne faut vraiment pas tarder. On a été un peu sous le choc aussi de se dire, mais en fait, comment est-ce que, en sortant de nulle part... on arrive à avoir un tel engouement. Parce que du coup, le premier concept qu'on a ouvert à la Cuisine, qui était du coup l'incubateur dans le 7e, on a fait encore un article avec le Bonbon Lion. Clairement, avec le Bonbon Lion, pour le début, on leur doit tout. C'est eux qui nous ont fait connaître. C'est grâce à eux qu'on a été complet plusieurs semaines. Et donc, le premier restaurant qu'on a ouvert du coup sur le terme de Charlie la Chocolaterie, qui s'appelait The Chocolate Factory, on a été complet pour 3 semaines. Donc, on a fait que 540 couverts sur 3 semaines. Mais en 24 heures, tout était complet, alors que c'était du prépaiement. Parce que du coup, c'est quelque chose qu'on avait mis en place, vu qu'on n'avait pas de financement, mais il fallait quand même qu'on achète des tables, il fallait quand même qu'on achète notre déco, il fallait tout ça. On a quand même on a mis en place le prépaiement. Donc, toutes les personnes qui souhaitaient réserver ont dû payer leur menu en avance, ce qui nous a permis d'avoir la trésorerie et d'avancer de cette manière-là. Mais vraiment, on a été sous le choc, mais ça nous a toujours poussé à aller plus loin et à se dire « Ok, on ne peut pas se louper, parce que si on se loupe, on perd tout, tout ce pour quoi on a travaillé jusqu'à maintenant, en fait. » Et c'était un moment en plus où avec Jade on était encore à l'institut, parce que du coup on était en 4e année quand on a ouvert la Cuisine, et il y avait un petit peu aussi cette pression de l'école de se dire bah voilà, il y a eu je pense des personnes jalouses, je pense qu'on s'est fait critiquer par beaucoup de personnes, et quand on avait été voir notre directeur monsieur Giraudier avant d'ouvrir Ephemera pour justement lui demander s'il pouvait nous aider financièrement parlant, il ne l'a pas fait. Il nous a regardé dans les yeux, il nous a fait merci beaucoup, au revoir. N'hésitez pas si vous avez besoin de moi, mais on venait clairement de venir le voir pour avoir de l'aide, et en gros, il nous a fermé la porte au nez.
D'accord.
Donc on s'est dit, ok, en fait là, on n'a pas d'autre choix que de leur prouver qu'on n'a pas besoin d'eux et qu'on a besoin de personne. Et ça nous a vraiment poussé à aller au-delà de nos capacités, en fait, et à se dire, on le fait pour nous. Et on le fait parce qu'on est fiers, un peu aussi. Mais voilà, on s'est vraiment aidés tous les trois, et on s'est poussés à vraiment dire on ne peut pas lâcher, quoi.
Bien sûr. Et c'est hyper intéressant. Et puis c'est vrai que voilà, c'est saisir l'opportunité à un moment T et se dire que voilà, c'est maintenant ou jamais.
Ça a été une succession de choses. Après, je pense que les opportunités, tu les saisis ou tu les laisses passer. On a tous les trois su la saisir ensemble. C'est ce qui a fait que ça a marché. Mais voilà, c'est tout le monde. Enfin, ça a été des chances, mais qu'on a su prendre.
Et une prise de risque aussi. Par le moment T, il y a eu voilà, vous étiez encore en cours avec Jade. Loris, t'étais à Paris.
En CDI.
Voilà. Ouais. Donc ça a été. Voilà, des challenges à ce moment-là.
Alors, je te laisse dire ce que t'as dit ton chef le moment où t'as démissionné.
Ouais, du coup, ce qui était compliqué, c'est que, voilà, donc nous, on avait eu cette idée, on avait fait que 2 week-ends qui avaient fonctionné, mais on partait, quand on s'est dit, on part pour 6 mois à la Cuisine, déjà, c'était que 6 mois, donc potentiellement, à la fin des 6 mois, on n'avait plus rien. Et puis surtout, moi, je quittais un CDI dans un 2 étoiles à Paris, où le chef, Morgane, il me dit, concrètement, tu vas te lancer dans un truc qui n'est pas concret, tu n'as rien de vraiment qui t'assure que c'est stable et que ça va fonctionner, pour revenir du coup dans 2 ans à Paris en tant que commis, et en gros, tu auras perdu du temps, quoi.
Oui.
Donc, sur le moment, c'est vrai que ça fait réfléchir, et en fait, on se dit, au pire, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a ?
J'aurais tenté, travail quoi. Et...
C'est exactement ça.
J'aurais pas de regrets, quoi.
Ouais, ouais. Si on n'essaye pas, on peut pas saisir la chance. Enfin...
C'est totalement vrai. Donc, Jade, Anaïg et Loris, vous êtes les 3 cofondateurs. Je voudrais savoir comment vous organisez votre trio comment vous gérez vos équipes.
Alors, donc nous, on est 3. On a chacun vraiment une tâche précise. Donc moi, je m'occupe de la partie création culinaire et gestion, du coup, changement de menu, développement de la carte. À côté, on a Jade qui va s'occuper de toute la partie développement et qui va aller, qui va avoir un petit peu l'audace et aller chercher des investisseurs, chercher vraiment le développement. Et à côté, on a Anaïg qui structure tout ça et qui fait que, qui nous canalise et qui fait en sorte que ça fonctionne avec, justement, qui va aller voir les banques, faire les dossiers, s'occuper des travaux et qui va vraiment cadrer un petit peu tout ça.
Super.
Pour les équipes, parce que tu parlais des équipes, on est une 20aine d'employés maintenant, mais après ça se développe encore, avec un pôle communication et ensuite salle, cuisine, bar et après...
Nous trois, on n'est vraiment pas en opérationnel. C'est-à-dire oui. que demain, on n'est pas là pendant 2 mois, le restaurant tourne sans nous. D'accord. On a recruté des personnes qui sont jeunes mais très motivées pour justement chapeauter tout ça. On a des managers qui sont avec nous depuis le début pour Ebony ou Anthony qui vient d'arriver, qui sont vraiment nos points de repère sur l'établissement à Lyon pour l'instant et qui sont ceux qui vont nous accompagner sur chaque couverture pour la formation des équipes. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment être les points clés en fait, de nos équipes et qui sont des personnes que du coup on va prendre avec nous sous notre aile et qui vont vraiment être là pour nous accompagner dans le développement quotidien et qui vont vraiment gérer la partie opérationnelle, formation des équipes pour nous permettre justement de nous développer et réfléchir plus au concept au fonctionnement de l'entreprise plus global.
Bon. Super. Du coup, j'avais une question. Ma question est comment s'organise un service dans votre restaurant ?
Alors, donc nous, on a 2 offres, une offre du midi et une offre du soir. Donc l'offre du midi, c'est clairement pour une clientèle à faire avec un menu entrée, plat, dessert ou enfin voilà, c'est à la carte. Et le soir, donc là on est sur un menu unique en 5 plats avec amuse-bouche, entrée, plat, pré-dessert, dessert. Et la particularité de notre restaurant, c'est que les gens arrivent tous à la même heure. Donc il y a un service de 19h et un service de 21h30. Et on demande aux gens d'être vraiment là à l'heure parce que c'est comme un spectacle. C'est-à-dire que les gens arrivent, on n'a pas allumé la vidéoprojection et d'un coup la salle s'allume, les gens ont leur amuse-bouche. Et ensuite, comme ça, on va enchaîner entre chaque plat une nouvelle vidéoprojection. On a une voix off qui va vous guider tout au long du repas. Et le but, voilà, c'est de structurer un petit peu le repas, mais pour proposer une offre qui est vraiment immersive et un spectacle vraiment comme si vous étiez au cinéma ou au théâtre.
Donc, vous devez avoir une sacrée organisation avec ce format-là. Je voudrais savoir comment est composée vos équipes en salle et en cuisine, combien vous êtes et comment vous vous organisez.
Alors, on est une vingtaine de salariés en tout. Donc, nous, on a la particularité d'être ouvert 7 jours sur 7. Mais en salle, on a une équipe fixe pour chaque service d'à peu près 3 chefs de rang et un manager, si je ne dis pas de bêtises. Avec un barman. Et en cuisine, pour servir ça, il faut à peu près 2 ou 3 personnes et un pâtissier. Donc voilà, ça nous fait une vingtaine au total. Et puis voilà.
On a la particularité du coup d'avoir essayé de travailler un petit peu sur le recrutement parce qu'après le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient quitté le secteur, notamment parce que on n'a pas beaucoup de vie en dehors du travail lorsqu'on travaille en restauration. Et du coup, pour toutes nos personnes en salle, on a établi des semaines de 4 jours travaillés pour 3 jours de repos. Ils ont réellement ils travaillent 3 jours en coupure, un jour en continu, donc ça fait presque des semaines de 3,5 en fait, ce qui leur permet vraiment d'avoir une vraie coupure mais chez eux du coup presque la moitié de la semaine. Et en cuisine, on a enlevé toutes les coupures, ils font uniquement de la continue pour justement avoir toute leur matinée, toute leur après-midi, tout ça. Ça, c'est vraiment grâce du coup au fait qu'on travaille 7 jours sur 7. C'est vrai que c'est pas forcément pratique pour tous les établissements, mais aussi vu qu'on a une équipe jeune, c'est très dynamique, tout le monde s'entend bien, il y a vraiment une bonne ambiance et les gens viennent aussi chez nous pour le confort, l'esprit un petit peu start-up, si je peux dire. On va mettre des primes individuelles, collectives, des challenges de semaine pour la vente, pour ce genre de choses qui sont vraiment intéressants pour intégrer tout le monde au jeu, si vous voulez, de comment se dire, ok, je suis au travail, mais comment est-ce que ça peut devenir cool d'être au travail ? Je suis pas au travail... parce que je dois venir au travail, je suis au travail parce que ça me fait plaisir.
C'est vrai que c'est une grosse réflexion en ce moment parce que on est fin d'été 2021 et début de la saison hivernale et on voit dans le secteur de la restauration qu'on a beaucoup de mal à recruter, que ça soit au niveau d'attirer les candidats que de les retenir. Donc c'est vrai que votre réflexion est hyper importante en ce moment et que vos idées sont très intéressantes, mais et que ça rentre totalement dans la problématique qu'on traverse en ce moment. Entre 2019 et aujourd'hui, donc 2 ans se sont écoulés, vous avez récemment fait vos derniers services pour votre concept Atera.
On est en train de faire nos derniers services, exactement.
D'accord. Ouais. Moi, j'avais lu que c'était les derniers services, mais ouais.
Atera, du coup, après, pour continuer sur l'histoire, du coup, après la cuisine, Les 6 mois se sont écoulés. Bon, sur les 6 mois de location, il y en a eu 4 qui étaient le Covid. Mmh. Où, du coup, on a fait, pendant la première période de la chef à domicile, on a fait chef à domicile, on a léché les gens.
D'accord.
Pour 4 jusqu'à 8 personnes. Une personne en salle, une personne en cuisine. On faisait tout sur place.
Ah, j'étais pas au courant. Voilà. Super, je savais
pas. On a fait ça. Ça nous a quand même bien aidé. Ça nous a permis de rester actifs, surtout. Mais au bout des 6 mois, bah, voilà, le propriétaire il nous a dit bah, 6 mois, c'est 6 mois. J'ai d'autres concepts qui arrivent. Au revoir, ciao. On a à ce moment-là, du coup, acheté. On a réussi à faire un prêt auprès de la banque. Qui nous a permis d'acheter notre premier fonds de commerce à Lyon 5e, qui était en travaux au mois de septembre et octobre.
D'accord.
On devait ouvrir le 2 novembre. Deuxième vague de Covid, le 30 octobre, on n'a jamais ouvert.
Ouais.
Donc un petit peu de deuxième coup dur après finalement. Alors que ça faisait presque 6 mois qu'on avait créé la société, on avait ouvert 2 mois et demi, quoi, même pas. Donc voilà, coup dur. Et là, on se regarde, on se dit « Ok, on vient d'embaucher notre première salariée. On vient de faire un prêt de plusieurs milliers d'euros qu'il faut qu'on rembourse. » Nous trois, on ne peut pas toucher le chômage parce qu'on n'a jamais été salariés. Et nos parents, ils nous ont clairement dit bah, « En fait, tu serais dans une boîte, tu aurais le chômage partiel ou tu serais encore en train de travailler. » Donc, ce n'est pas trop notre problème. Donc, ok, on fait quoi? On travaille. Et donc, on a lancé notre concept de vente à emporter.
Oui.
Qui s'appelle One by Ephemera.
C'est ça.
Mais Loris, tu veux, je te laisse...
Ouais, donc One by Ephemera, où à la base on s'était posé pendant le Covid et on s'est dit soit on fait ce qu'on fait dans des assiettes mais dans des bols et ça a des chances d'arriver froid chez les gens, qu'ils puissent mal les réchauffer, que le dressage soit ruiné. Donc c'est clairement pas ce qu'on voulait faire, donc on s'est dit bah on va faire de la street food, mais retravailler avec des bons produits, des bonnes techniques et en essayant d'élever un petit peu le niveau. Et du coup on a fait ça, on a revisité un kebab, enfin pas mal de choses, des rolls, enfin on a fait plein de trucs et en fait ça a même pas mal marché à Lyon. On a cartonné, on faisait 300 kebabs jour. Ouais. On a fait des brunchs aussi tous les week-ends. On a vraiment revisité tout ça en profitant du Covid et pour nous ça a même été une grosse opportunité. Et à tel point qu'on s'est rendu compte que pour la communauté qu'on a réussi à emmagasiner pendant tout le long du deuxième et troisième confinement, en fait notre restaurant allait être trop petit. On avait acheté donc un local où on avait 25 places assises et en fait on s'est dit mais avec le nombre de personnes qui nous demandent quand est-ce qu'on va réouvrir, quand est-ce qu'on va reprendre l'activité normale, et bah 25 places assises ça va pas le faire quoi.
Oui, bien sûr.
Donc là on a eu une opportunité avec la Pardieu, donc c'est un interlocuteur là-bas qui était venu nous voir en nous disant bah, une de mes collègues avait mangé chez vous, elle avait adoré, donc on aimerait bien vous proposer un local à la Pardieu de 200 mètres carrés ou 300 je sais plus.
Ouais.
Et du coup, là-bas, on peut mettre à peu près 70 places assises. Et au final, on s'est dit, oula, est-ce que ça va le faire? C'est un centre commercial, c'est pas l'image de marque que nous, on a envie d'avoir forcément. Et en fait, on s'est dit, autant tenter, encore une fois, comme d'habitude, parce que ça nous permettait aussi d'avoir une très, très grosse visibilité.
Bien sûr.
Et au final, on a repris en juin là-bas avec un concept qui s'appelle Atera, autour d'une forêt enchantée. Donc c'est tout un univers qu'on a créé, on est allé chercher une décoratrice Henriette qui nous fait des décors de cinéma à la base et qui du coup est venue justement créer ce monde à travers ce que nous on avait imaginé et du coup on essaie de plonger les gens là-dedans et ce concept ferme ses portes bientôt pour être remplacé par Choka, une fabrique de chocolat.
Avec du coup un menu exclusivement basé sur... L'ingrédient du chocolat, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Avec une déco, pareil, et une immersion visuelle et sonore dans la salle.
À chaque fois, on essaie de travailler nos concepts, en fait, vraiment en totale immersion. Alors, on évite de dire multisensoriel, parce que des fois, c'est plus ou moins compliqué de travailler sur tous les sens au même moment. Mais c'est ce vers quoi on tend. Et du coup, au niveau du visuel, en fait, on a de la vidéoprojection sur le plus grand mur de notre salle. Dans nos futurs restaurants, on aimerait bien avoir vraiment ce travail en 360 avec de la vidéoprojection pour avoir vraiment une bulle qui est créée et avoir une totale immersion. Et ensuite, forcément, l'olfactif, le goût, etc., par la nourriture et également sonore parce qu'on crée une réelle... un peu comme une séance de cinéma, si vous voulez, où tous les convives vont arriver en même temps. du coup, dîner au même moment, les mêmes plats, c'est vraiment sur du menu unique que Loris se réfléchit du coup mm-hmm. autour du concept. Donc pour Choka, le petit truc, ça va être de dire que Loris va implémenter du chocolat dans chacun des plats, mais ça sera au client de deviner comment est-ce qu'il l'a travaillé, avec quel ingrédient.
D'accord.
Voilà, c'est le petit truc là pour le prochain concept. Tout en faisant en sorte que ça reste subtil, bien entendu, parce qu'on est quand même sur un menu en 5 plats.
Oui.
Il ne faut pas que ça devienne écœurant. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le petit truc. Et voilà, donc l'expérience, elle est vraiment aussi sonore, parce que du coup, on a une voix off qui vient guider tout au long pour expliquer un petit peu, faire la relation entre ce qu'il y a dans les plats, ce qu'il y a dans la salle, ce qu'il y a sur la vidéoprojection, ce genre de choses.
Ouais, c'est super. Et du coup, ça me permet de rebondir sur ma question. J'aimerais qu'on parle un peu de vos inspirations. Loris, tes inspirations culinaires, est-ce que, par exemple, t'as des idées ou t'as des inspirations de chefs français ou internationaux et Anaïg, des inspirations au niveau de la décoration de la salle et de cette expérience auprès des clients? Je voudrais savoir, voilà, un peu qui vous inspire pour vos projets.
Alors, pour répondre un petit peu, ce qui est assez délicat, c'est qu'en fait, nous, ce qui nous inspire, déjà, il n'y a pas vraiment de partie différente entre la cuisine et la salle, mm-hmm. étant donné que on essaie de créer un univers cohérent, mais qui, voilà, qui va se regrouper, enfin, qui va se rejoindre aussi bien au niveau de l'assiette que du décor. Donc, en fait, quand on imagine le décor, c'est là où je vais imaginer les assiettes, et c'est là où on va réfléchir tous ensemble à des mm-hmm. supports qui vont être cohérents, à se dire, bah, là, par exemple, pour Atera, on allait chercher un tronc d'arbre pour aller essayer de dresser dedans, on va aller prendre des noix de coco. Donc, déjà, de base, il y a un travail qui est commun au niveau de cette recherche. Et ensuite, l'inspiration, bah, après, vient forcément des gens avec qui j'ai travaillé. Mais je pense que c'est à chaque fois le travail de se réinventer, en fait, à chaque concept. Là, pour Charlie, Choka, on est sur quelque chose qui est complètement différent d'Atera. Et limite, quand on va regarder les assiettes, on ne va même pas forcément se dire c'est le même chef qui est derrière.
Bien sûr.
Y a des choses qui vont être communes. Enfin voilà, on va retrouver un petit peu des signatures, des techniques que j'aime bien, que j'affectionne. Mais le but, c'est vraiment de se réinventer à chaque fois et que les gens soient complètement déboussolés et ne retrouvent pas forcément la même chose, quoi, que la fois d'avant.
L'idée de Ephemera, c'est vraiment de se dire qu'on va dans un restaurant et que même si on le connaît, parce qu'on connaît du coup la qualité du service, parce que c'est les mêmes équipes, on connaît la qualité de la nourriture, parce que c'est le même chef qui a réfléchi les plats, etc., on va dans un totalement nouveau restaurant. Et c'est vraiment sur ça qu'on joue, c'est de se dire que voilà, au final, on aime bien tous tester des nouvelles choses, on est tous friands de nouveautés. Et en même temps, bah, des fois, ça nous fait un peu peur de tester telle ou telle chose parce qu'on ne sait pas comment ça va être, en fait. Et donc, c'est sur ça que nous, on essaie vraiment de jouer. C'est la même qualité, parce que les mêmes équipes, parce que la même qualité. Mais en fait, ce n'est plus du tout la même chose.
Bien sûr. Oui, à chaque concept, c'est vraiment la feuille blanche et puis voilà, tout refaire.
On recommence tout à zéro. Voilà. Après, du coup, pour ce qui est de la décoration, on travaille du coup avec Henriette, qui est qui nous fait tout sur mesure. Donc en fait, elle vient dans l'espace. On lui explique comment est-ce qu'on imagine le concept. Elle travaille également du coup avec Romain. Romain qui est développeur de vidéo pour la vidéoprojection. Et en fait, ils vont travailler ensemble Enfin, on va travailler tous ensemble sur l'expérience, comment est-ce qu'on imagine en fait l'histoire un petit peu et le storytelling. Et eux, ils vont venir travailler derrière sur du coup les sols, plafonds, les objets, la vidéoprojection pour que tout soit en cohérence. Donc il y a vraiment une partie créative de leur part à eux aussi. Et pour tout ce qui va être ensuite poussé dans l'immersion, va avoir des projets d'aller aussi s'inspirer des personnes qui font des restaurants, etc., qu'il y a beaucoup au Japon. Tout ce qui est vraiment restaurant immersif au Japon, c'est les premiers, de plus en plus en Chine également. Donc on aimerait bien prochainement aller vraiment s'inspirer directement et de voir ce qui se fait de mieux là-bas.
D'accord.
En allant vraiment à la source et voir les meilleurs, quoi. Tout simplement.
Ouais. Combien de temps de réflexion vous disposez pour de la feuille blanche à l'ouverture du restaurant, pour la partie culinaire comme pour la partie service?
Si tu nous demandes pour l'ouverture d'Atera, entre le moment où ils nous ont contactés et le moment où on a ouvert le restaurant, il y a eu 6 semaines.
6 semaines.
Travaux compris. Ça a été très 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 sportif.
Donc ouais, c'est ouais. Un mois et demi, mais
c'était très c'était vide, totalement vide, il n'y avait pas de travaux, on a dû tout faire. Ça a été du travail jour et nuit pendant 6 semaines non-stop. Après là maintenant du coup on essaie d'anticiper parce que c'est pas possible de travailler ça comme ça à chaque fois mais voilà maintenant on va essayer au fur et à mesure d'avoir vraiment des concepts à chaque fois un concept d'avance donc plus de presque 3-4 mois de réflexion entre le moment où on réfléchit la chose et le moment où c'est fait parce que tout ce qui est mobilier sur mesure tout ça à chaque fois on change le mobilier donc ce qui est vraiment important c'est de pouvoir réfléchir à tout le petit détail qui va faire la différence en fait.
Bien sûr.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, là, quand on, avec du recul, quand on regarde un petit peu ce qu'on a fait avec Atera, on est super content. Mais il y a plein de choses où on se dit, on aurait pu aller plus loin là-dessus, on aurait pu changer ça, ça. D'autant plus que c'était un centre commercial, donc il y a beaucoup, beaucoup de normes qui nous ont restreints et qui nous ont un peu frustrés à la fin, parce qu'on ne pouvait pas utiliser telle chaise ou telle chaise. Du coup, voilà, là, on essaie vraiment d'anticiper de plus en plus. Et comme disait Anaïk, d'avoir facilement 3-4 mois d'avance pour se dire, bah, je vais faire créer, enfin, je veux une assiette, par exemple, Cabos de cacao, bah, je vais aller la faire, tout simplement. Et du coup, bah, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, faut toujours anticiper et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on ferait après ? Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin encore ? Et anticiper tout ça.
Du coup, ça me fait rebondir sur la question de quels sont du coup vos projets à l'avenir, vos rêves, vos objectifs pour votre concept Ephemera. Est-ce que vous pensez à faire découvrir votre concept à d'autres villes en France, pourquoi pas à l'étranger ?
Alors. Je peux commencer cette fois. Il y en a pas mal. Donc là, on a déjà, nous, pour la France, on se dit que ça a fonctionné à Lyon. Donc c'est plutôt cool. Mais on aimerait bien aller donc dans d'autres villes. Se lancer à Paris, pour nous, ce serait vraiment confirmer que le concept marche. Je pense que voilà, si on arrive à s'implanter ici et à avoir quelque chose de stable à Paris, c'est déjà pour nous un très bon signe. Mais on veut pas s'arrêter là, on veut se développer aussi dans d'autres villes de France comme Bordeaux, pourquoi pas Toulouse. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à faire. Surtout que Anaïg a évoqué tout à l'heure un petit peu One, qu'on a fait donc pendant le confinement, avec la vente à emporter. Et en fait, ça, c'est aussi une gamme qu'on aimerait bien continuer de développer en parallèle d'Ephemera. Donc, ce côté vraiment street food, vente à emporter. Mais il y a aussi toute une autre gamme dont on n'a pas encore parlé et que, on va teaser un petit peu sans entrer trop dans les détails. Mais ce serait donc des bars éphémères parce que on se rend compte que beaucoup de personnes viennent à la base pour la décoration, mais peuvent pas forcément venir manger parce que le budget est quand même assez élevé sur un soir et aussi parce que les places sont réduites. On a beaucoup de demandes et en fait, des gens viendraient bien juste boire un verre. Et du coup, on se dit que avoir un bar en fait immersif avec justement on pourrait jouer sur la vidéo projection, jouer aussi beaucoup plus du coup sur les odeurs ou quoi avec des cocktails, ça pourrait être sympa. Et du coup voilà, ça c'est quelque chose qu'on ouvrirait aussi dans d'autres villes. Et puis une fois qu'on a concrétisé ça en France, se développer à l'étranger carrément.
Ce qui est hyper intéressant quand on entend vos objectifs de développement, c'est le fait que vous ayez une marque mais avec plusieurs offres totalement différentes. Une offre de livraison, un restaurant, un bar. Et je pense que ça sera clé dans le développement dans les prochaines années dans la restauration, parce qu'on a vu avec le Covid que les restaurants très traditionnels ont beaucoup souffert. Et on a vu que ceux qui sont relever le plus facilement et le plus rapidement, ce sont ces marques qui avaient plusieurs offres sous le coude et qui ont pu avoir des sources de revenus par différents biais par différents biais selon leur concept. Donc c'est vrai que ce modèle est hyper, hyper intéressant.
Je pense que c'est vraiment une question d'adaptation parce qu'en fait justement le fait d'avoir ces différentes branches, ça nous permet de toucher différentes cibles. C'est-à-dire que alors, autant on va pouvoir avoir des personnes qui vont vouloir aller au bar et qui vont vouloir aller au restaurant, mais au moins on ne se prive pas de personnes avec différents budgets, avec différentes envies, avec différents souhaits, qui n'ont pas le même temps aussi pour venir, parce que voilà, le soir, des fois on n'a pas toujours le temps de venir le soir, ou des fois on n'a pas le budget pour mettre, comme disait Loris, 50 euros dans un menu par personne, plus les boissons, etc. Et des fois on a quand même envie de profiter de l'expérience sans pour autant mettre un gros budget. Et je pense que ça va vraiment être la clé dans tout ça va être de pouvoir adapter une offre pour chaque personne qui soit.
Et donc voilà, et du coup, cet objectif, c'est. Ça va être aussi votre élément qui va vous différencier des autres, restaurants éphémères qui seront concurrents. Parce que du coup, si vous êtes, si vous voulez vous installer à Paris, la concurrence est déjà quand même assez rude ici. On a de plus en plus de restaurants éphémères qui s'ouvrent. On voit et c'est tout type de marque. Comme j'ai lu récemment que Ruinart ouvrait un restaurant éphémère. À Paris, et il y a aussi un groupe qui s'appelle We Are Ona, je ne sais pas si vous connaissez, qui est aussi une chaîne de restaurants éphémères, mais qui est présente un peu partout dans les villes mondiales. Et donc du coup, ça me fait penser à quel serait un peu voilà d'autres éléments qui pourront vous démarquer de ces concurrents si vous vous installez à Paris ou ailleurs. Je sais pas si c'est clair.
Non, plutôt. Nous, ce qui fait vraiment ce que nous, on a envie de transmettre avec Ephemera, c'est de base cette déconnexion et de transporter les gens dans un univers. Tu parlais là de Ruinart qui ouvre un restaurant éphémère. Je sais pas dans quel cadre ils vont le faire, mais je pense pas qu'ils t'emmènent dans une planète enchantée, entre guillemets. Donc c'est un positionnement qui est différent, mais nous le but c'est vraiment de déconnecter les gens et de les emmener à chaque fois avec nous dans ce qu'on veut créer, quoi.
Dans une histoire entière, c'est vraiment la partie immersive. S'il y a un mot, voilà, c'est nous, c'est éphémère et immersive. On utilise d'abord éphémère parce que One, c'est pas forcément immersif au même sens que les restaurants et les bars. Mais voilà, c'est vraiment notre deuxième axe sur lequel on joue le plus, c'est l'immersion. Et c'est ce sur quoi on va vraiment parier sur le futur.
Parce qu'au final, excuse-moi, vas-y.
Vas-y.
Je sais même pas si on a décrit comment se passait un repas éphéméra, mais c'est vraiment vous arrivez et en fait on a une voix off qui va vous expliquer un petit peu. Bonjour, vous arrivez sur la planète Atera. Et ensuite, tout au long du repas, vous êtes vraiment guidé de l'amuse-bouche au dessert, et on a une vidéo projection qui donc évolue à chaque plat. Et en fait, voilà, il y a vraiment un storytelling. Anaïg employait ce mot tout à l'heure. Et en fait, c'est vraiment vous avez une histoire qui vous est racontée. C'est aussi pour ça qu'on est très exigeant sur les horaires d'arrivée de nos clients.
Oui.
On a vraiment deux services distincts parce que c'est comme un spectacle en fait. Ouais, vous arrivez ça. Et si ça a commencé, ça a commencé, vous prenez en cours. Mais c'est vraiment tout le monde en est au même stade à chaque fois du repas. Et le but, c'est vraiment de proposer une expérience complète, quoi.
C'est ça. Et on voit très bien que c'est ce que vous voulez développer et vous le faites très, très bien. Et on a vu le succès que vous avez à Lyon. Et je pense qu'il n'y a aucun doute que vous aurez autant de succès à Paris et dans d'autres villes en France et à l'étranger. Pour terminer cette interview, j'aimerais poser une dernière question. Quelle phrase de conclusion vous pourrez donner aux jeunes qui souhaiteraient ouvrir leur propre restaurant, créer leur propre entreprise à l'avenir quel conseil ou quelle phrase de motivation vous pourrez leur donner?
Moi ou toi?
On en donne une chacune. Moi, je pense déjà qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. Il faut surtout bien réfléchir à un élément qui nous différencierait. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on a maintenant des concepts, il y en a des milliers. Il faut juste trouver vraiment son ADN et aller au bout de l'idée. Faut pas se dire je vais être un peu le cul entre deux chaises et faire un truc parce que c'est tendance et que ça marche bien. Faut vraiment aller trouver ce pourquoi nous on est bon. Et ensuite, une fois qu'on a cette idée-là et qu'on l'a bien poussée et qu'on est vraiment allé ficeler le truc, bah faut se lancer, faut vraiment pas hésiter. Même si les gens vont pas forcément vous encourager à le faire, faut pas se poser la question et faut y aller.
Pour moi, comme Loris, la première c'est oser et la deuxième c'est bien choisir les personnes avec qui on se lance. Il y a vraiment cette notion de complémentarité. Il y a une phrase un peu bateau qui le dit, mais tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense que c'est vraiment vrai. On a la chance avec Loris et Jade et moi-même de vraiment se compléter. On n'a pas trop dit au moment de l'introduction, mais voilà, Loris s'occupe vraiment de toute la partie culinaire. Jade de toute la partie développement, négociation, c'est celle avec du culot. Loris, c'est le créatif. Et moi, j'ai plutôt m'occuper de toute la partie opérationnelle, que ce soit gestion RH, gestion financière, tout ce qui est pré-ouverture, tout ça, les travaux, tête dans le guidon, c'est moi. Et donc voilà, on a vraiment tous les trois chacun notre pôle. Et ce que chacun sait faire, les autres ne savent pas le faire. Et sans l'un de nous, ça n'aurait jamais pu marcher. Et je pense que donc, c'est vraiment ça la deuxième chose, c'est se dire, OK, avec qui je le fais, pourquoi je le fais avec eux, et surtout, est-ce qu'on va ensemble dans la même direction? Parce que si on ne parle pas dès le début de ce qui va marcher, de ce qui peut marcher, au bout d'un mois, ça va se casser la gueule, quoi. Si c'est pas un mois, ça sera un an. Mais s'il y a un moment où ça va bloquer, et donc dès le début, c'est de se dire, OK, de quoi est-ce que j'ai envie? Il faut être vraiment conscient de soi-même. Et il faut être conscient des autres, avec leurs défauts et leurs qualités. Bien sûr, on a tous les trois beaucoup de défauts aussi, mais je pense qu'on est conscient de ça et on sait comment travailler ensemble. Et c'est ce qui va être vraiment la deuxième chose la plus importante, c'est de savoir avec qui est-ce qu'on s'associe, quoi.
C'est vrai. Et donc du coup, c'est sur ces belles paroles que nous allons terminer notre interview. Anaïgue et Loris, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour aujourd'hui, pour parler de votre concept et pour parler un peu de vos parcours, de vos personnalités. C'était un réel plaisir de vous d'avoir accueilli et on vous souhaite une bonne continuation et surtout beaucoup de succès pour plus tard.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés.